CFO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect.
Bonjour à tous, je suis ravi comme chaque fois de vous retrouver sur CFO Radio et un grand bonjour aux 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés au podcast, toujours plus nombreux, vous le savez, pour écouter chaque semaine nos émissions. Et surtout, n'oubliez pas, CFORadio.tv, c'est notre compte LinkedIn, alors réagissez à mes côtés pour co-animer cette émission et réagir justement aux propos de notre invité. Je suis ravi d'être aux côtés de Laurent Lamoureux, associé de BDO France, 5e réseau mondial d'audit et de conseil, Yann Alossery, responsable grand compte chez G-Collect, et Olivier de Gaetano, directeur général Europe de l'Ouest de Tagetik. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Nathalie Delbreuve, directrice financière groupe de Verallia. Bonjour Nathalie.
Bonjour tout le monde, bonjour.
Alors, vous êtes née à Talence, près de Bordeaux, pour ceux qui ne savent pas. Vous êtes littéraire en fait, une littéraire qui s'est égarée dans la finance.
C'est ça. Oui, c'est un peu ça.
On peut dire comme ça, qu'est-ce qui s'est passé?
Non, je sais pas. Je suis quelqu'un de très curieux, tout simplement. Et puis, c'est vrai que mes premières amours étaient assez littéraires, effectivement. Parce que petite, je voulais être archéologue, pour tout vous dire. Donc, j'ai un peu dérivé. Donc, voilà. Assez passionnée d'histoire et de...
Il y a le côté rigoureux, quand même, qui est important.
Et puis, en fait, voilà, je suis quand même, quelqu'un de très rigoureux, très, j'aime bien l'ordre et la méthode. Donc, je pense que c'est ce qui m'a sans doute appelé vers la finance. Et puis, c'est vraiment au fil des études. Mais ce qui m'a très, très vite attiré, c'est quand même, toujours cette curiosité et de comprendre, de mettre en équation, en chiffres, et puis après de copiloter, on va dire.
Alors, Price, PwC.
Voilà, PricewaterhouseCoopers, après l'école. PwC, c'était vraiment une super école. En plus, j'ai commencé aux Pays-Bas, donc dans un environnement extrêmement international, absolument génial. Et ensuite à Lyon, aussi génial. Mais c'est vrai qu'à 30 ans, j'avais l'impression de voir ma carrière toute tracée. Et ça, c'était vraiment pas possible pour moi.
Donc, voilà.
Après, il se trouve que voilà, j'étais très proche d'un de mes clients qui avait un poste ouvert. Donc, ça s'est fait. Voilà.
Naturellement. En fait.
Mais c'était vraiment à la fois de vouloir me challenger à nouveau dans un domaine. Il y a un sujet un peu chez moi toujours de sortir de sa zone de confort.
Ouais,
peut-être un peu, voilà. Et puis de vouloir passer de l'autre côté de la barrière et de devenir acteur, en fait, de la création de valeur plutôt que de la regarder.
D'accord. Alors, votre parcours, c'est l'industrie, la logistique. Si j'étais macho et pas politiquement correct, je dirais que c'est plutôt un monde d'hommes, non?
Ouais, alors je sais, j'ai jamais évidemment raisonné comme ça en fait. Je pense que, comme je disais, mon évolution après PwC chez Groupe Norbert Dentressangle, on peut le dire à l'époque, c'est vraiment par envie, par goût et par mon bon fit relationnel en fait avec l'équipe dirigeante. Je les auditais, et donc j'ai appris à les connaître et à vouloir rentrer dans cette formidable équipe qui a créé. Qui faisait croître un groupe de manière extraordinaire et dans un milieu exigeant. Donc là, on revient un peu sur le côté exigeant, rigoureux. J'aime me challenger. Ça a l'air dur. J'ai bien envie d'aller voir comment on fait. Donc c'est quand même mon moteur finalement.
Alors Verallia, super entreprise, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que vous m'avez raconté hors micro pour préparer l'émission.
Exactement.
Dites-nous un peu ce que c'est.
Racontez. Donc Verallia, c'est un groupe formidable. C'est une ancienne branche de Saint-Gobain.
Des plus vieilles entreprises de France.
C'est ça. Donc, il y a une histoire, une legacy qui est incroyable. Donc, on produit des packagings en verre alimentaire, donc des pots, des bouteilles. On est sur tous les segments, de l'alimentaire et de la boisson. Ça correspond à un virage stratégique qu'avait entamé Saint-Gobain il y a bien longtemps pour se concentrer sur le verre plat. Et donc, ils ont cédé en fait leurs trois activités de verre de manière distincte, la pharmacie, la parfumerie et puis le verre alimentaire. Donc Verallia, et c'était vraiment une petite pépite en fait. On a été vendu au groupe Apollo, enfin au fonds Apollo. d'Apollo. Ces passages d'entre les mains d'Apollo, c'est terminé par une cotation en bourse en 2019. Donc, on était une des deux IPO avec la Française des Jeux. Il y en a eu deux cette année-là. Donc, octobre 2019, entrée en bourse de Verallia.
Donc, qui s'est bien passé.
Juste avant le Covid, puisque finalement, voilà, le Covid était quand même en mars 2020. Donc, et on a assez vite rejoint le SBF 120. Et depuis, en fait, depuis 2017, finalement, on a presque doublé l'EBITDA quand même du groupe. Donc,
pas mal du tout.
Donc voilà.
Combien de salariés?
So far, so good. Un peu plus de 10 000 salariés.
Chiffre d'affaires.
À peu près 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà.
Bon, Laurent.
Je veux que vous produisiez 17 milliards de bouteilles et de pots en verre par an. C'est gigantesque.
17. Oui, alors effectivement, nous, on va souvent compter plutôt des 4 tonnes, mais regardez ce qu'il y a sur la table. Hein, donc, on utilise beaucoup de contenants, de packaging en verre dans le monde. Effectivement, et on est quand même un des gros au niveau mondial. On est numéro un au niveau européen. On a aussi une forte présence en Amérique latine.
Donc vous avez eu une vraie démarche pour décarboner le verre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Ouais, alors le verre, c'est ce que je disais, il y a une legacy incroyable parce que en fait, c'est toujours du sable en fusion hein, finalement depuis mais on est à un moment extraordinaire pour le verre parce que on a vraiment de la R&D, de l'innovation de partout. Pourquoi? Parce que le verre, c'est un matériau fantastique, il est absolument inerte, c'est le packaging le plus sain que vous puissiez avoir. Il n'y a pas de microplastique qui migre à l'intérieur, pour ne nommer personne.
C'est également... pas gentil de se moquer.
Non, mais c'est totalement recyclable. C'est-à-dire que...
À
l'infini. Ça ne génère jamais de déchets, puisque le verre, vous le mettez, donc, j'espère, dans la bonne poubelle. Ensuite, ça revient chez nous, on le traite, et c'est refondu, en fait, dans nos fours. Aujourd'hui, on a un peu plus de la moitié de nos matières premières qui sont, en fait, ce verre recyclé. Donc, on est dans la circularité, dans la génération, à nouveau, de zéro déchet. Le sujet, évidemment, c'est la fusion et donc la consommation d'énergie et donc l'émission de CO2. Donc très très tôt, le groupe, juste après l'IPO, a commencé à travailler sur ce sujet. On a commencé par fixer une raison d'être qui était tournée vers l'ESG. Et puis dès février 2021, on a fait un Capital Market Day 100% ESG où on s'est fixé des objectifs de décarboner d'augmenter cette circularité en fait. Donc on a aussi des objectifs d'augmenter les pourcentages de calcin, c'est le terme. Mais pour ce faire, on travaille sur tout. Donc je pense qu'un des messages très importants pour tout le monde, pour décarboner et pour réduire les émissions, c'est qu'il n'y a pas la solution magique. Ça n'existe pas. Donc, de même que les énergies renouvelables, il faut de tout. Hein, il faut du nucléaire, de l'éolien, de l'hydro, etc. Sinon, ça ne marchera pas. C'est un peu la même chose pour nous, finalement. On travaille sur utiliser d'autres matières premières décarbonées, parce qu'on a du carbonate de soude qui rentre dans la fusion quand c'est pas du verre recyclé. Mais on a surtout un gros travail pour électrifier nos fours et utiliser, bien sûr, de l'électricité décarbonée. Donc ça, c'est un chemin incroyable parce que on a ce savoir-faire en interne chez Verallia d'avoir des équipes. On a des équipes, en fait, de R&D capables de faire ces développements. Hein. On a une certaine autonomie dans la réfraction, dans la réfection de nos fours. Et donc, en 2024, on va ouvrir un premier four 100% électrique. C'est le premier du secteur à Cognac. Donc, c'est très ad hoc pour nos clients premium, spiritueux, qui eux-mêmes ont pris des engagements de baisse de leur scope 3 de CO2. Donc voilà, beaucoup d'enthousiasme en interne. On est aussi en train d'alléger les bouteilles. On a déployé une bordelaise R. Je peux vous assurer quand vous l'avez en main, c'est incroyable. C'est vraiment très léger. Hein. Donc on réduit, on travaille sur tout en fait. On a un cheminement qui est très clair et très motivant en interne.
Yann, Oui, alors vous avez un métier naturellement dans l'économie solidaire, recyclable, et en tout cas tous ces domaines très très exigeants. Est-ce que c'est compatible avec la bourse? Ou en tout cas, est-ce qu'elle est gentille avec vous? Parce qu'on va regarder la rentabilité, et souvent dans cette économie-là, c'est...
C'est une excellente question, j'adore cette question. Alors, ce qui est clair, c'est que la bourse ne reconnaît absolument pas, enfin moi si vous me demandez, hein, ce n'est pas du tout pricé aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, on sait bien qu'on en parle. Je pense que si on n'en parlait pas, peut-être ça serait même négatif, mais je ne suis même pas sûre en fait. Mais j'allais dire, bon... La bourse, c'est un des éléments, c'est un des miroirs que vous avez en face de vous, mais bon, nous, clairement, la stratégie, elle est très claire. Si le vert ne travaille pas sur ce sujet-là, on ne sait pas si on sera encore là, voilà, dans 50 ans. Hein. Donc, on va fêter les 100 ans de Verallia, et notre CEO aime bien dire en interne, moi, je suis là pour préparer les 100 prochaines années, donc je veux qu'on soit encore là dans 100 ans, donc allons-y. Mais clairement, non, pour revenir à la bourse, pour moi, c'est très, ce n'est pas valorisé. Ce qui est assez étonnant, parce qu'en même temps, on a les CSRD, on a la taxonomie, on a tous ces sujets-là. Moi, un des premiers sujets sur la taxonomie, j'interrogeais mes banquiers, mes investisseurs, comment vous allez le prendre en compte? Ce que je peux vous dire, c'est que ça commence à se traduire au niveau commercial, en fait. Hein, parce qu'on a, nous, en face, des clients, à nouveau, qui ont des engagements sur leur Scope 3 et qui, on commence à convertir, en fait, ce cheminement ESG en business. Et c'est ça qui, demain après-demain, nous permettra de montrer aux investisseurs que ça a de la valeur.
Ça va bouger. Olivier?
Alors, justement... au sein de la direction financière, lorsqu'on fait face aux exigences réglementaires, la pression du reporting avec la cotation en bourse, ouais. Quelles sont les priorités entre Pilar 2, CSRD et le remplacement de BFC qui va être abandonné?
Alors, en fait, on gère toujours tout en même temps, hein. Vous savez, c'est... Alors, Pilar 2, c'est un gros sujet de reporting, mais, enfin, voilà, j'allais dire, oui, on gère tout, tout doit être traité. Sur le volet de la CSRD, en fait, on est quand même très en amont, nous, chez Verallia, donc... J'ai déjà des reportings internes sur du CO2, du calcin, du voilà, parce que ça fait partie en fait de notre ADN. Donc, je vous dis pas que la CSRD ne va pas nous rajouter du travail, mais pour moi, c'est très important de pas non plus se laisser submerger justement par cette réglementation et qu'elle embrasse notre stratégie en fait. Donc, tout le sujet sur la CSRD pour nous, par exemple, hein, si je prends cet exemple, je pourrais revenir sur Pilar 2 après, c'est de faire la bonne mesure. On va pas vouloir être les premiers sur le podium, d'avoir des pages et des pages pour répondre à. Mais par contre, on va vraiment s'attacher à la lisibilité et à la cohérence avec ce qu'on a pour l'instant toujours dit, et ce qui est notre vraie stratégie en interne, parce qu'on est très sûr qu'elle est forte.
Nathalie, vous êtes formidable. Ne changez rien. On pourrait rester des heures, on pourrait parler foie gras, on pourrait parler d'histoire et tout. Malheureusement, le temps est compté. Merci beaucoup. Merci à vous, Laurent, Yann et Olivier. Fin de ce numéro de CFO Radio.
Merci.
On va trouver toute notre actualité sur nos comptes LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect.